Alors, dans la progression de notre colloque, nous avons commencé à aborder ce thème, loi naturelle et société, avec le père Édouard R. cet après-midi. Et ce soir, c'est le père Pierre Coulanges qui va nous parler de nature et droit, une dynamique du bien. Le père Pierre Coulanges est professeur au Studium de Notre-Dame de Vie depuis 2005. Il a une double compétence en doctrine sociale de l'Église et en Bible. Il est titulaire d'un doctorat en économie et d'un doctorat en théologie qu'il a fait sur la Bible. Il a publié déjà plusieurs ouvrages sur des thèmes assez différents qui nous disent ses centres d'intérêt: le travail humain, l'option préférentielle pour les pauvres, la vie ordinaire, un chemin vers Dieu, et puis son dernier ouvrage, « Quand Dieu ne répond pas », une enquête à travers la Bible, un livre qu'on s'arrache, je crois. Voilà, il a aussi des compétences en botanique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça nous entraînerait trop loin, et je lui laisse la parole.
Merci Jean-François. J'espère que cette conférence tardive ne vous introduira pas trop rapidement dans la quiétude du repos nocturne. Je vous invite à suivre l'exposé à l'aide de la feuille qui se trouve normalement dans les pochettes qui vous ont été distribuées. C'est le plan de mon exposé de ce soir. Cette communication va être très modeste. Je voudrais évoquer au fond cet énorme débat qui fait l'objet d'une multitude de publications sur la loi naturelle, le droit naturel. On pourrait s'étonner qu'il y ait autant de publications sur ces sujets à l'heure actuelle. Ça représente une importante littérature. Et lorsque nous avons préparé ce colloque, nous avons été les premiers à nous étonner de cette profusion de littérature sur cette question. Alors que ces notions de nature et droit pourraient paraître dépassées et désuètes. Alors, à titre introductif, j'aimerais d'abord commencer, avant de commencer à traiter du droit, de bien expliciter la différence entre le droit et la loi naturelle. On pourrait dire, pour commencer, en reprenant simplement les termes de la Commission théologique internationale, que le droit naturel est l'expression juridique de la loi naturelle dans l'ordre politique. C'est ce qui passe, si vous voulez, de la loi naturelle dans les textes. Il apparaît comme la mesure des relations justes entre les membres de la communauté. Ou, autrement dit, la loi naturelle s'énonce en droit naturel lorsqu'on considère les relations de justice entre les hommes, c'est-à-dire lorsque on passe de la catégorie anthropologique de la loi naturelle, c'est ce que nous avons vu en début d'après-midi, à la catégorie juridique et politique de l'organisation de la cité. Et il faudrait ajouter que le droit naturel se distingue du droit positif en ce sens qu'il le précède. Le droit naturel, dit le document de la Commission théologique internationale, est ce qui est naturellement juste avant toute formulation légale. Ce qui est naturellement juste. D'où le titre de ma conférence, Une dynamique du bien, nature et droit. Nous allons voir pourquoi une dynamique du bien. Ajoutons, pour considérer toutes les dimensions du sujet, que le christianisme n'a pas le monopole ni de la loi naturelle, ni du droit naturel. On peut en effet trouver des traces de droit naturel dans les civilisations anciennes antérieures au christianisme. Il y a par exemple des règles que l'on pourrait qualifier de conformes au droit naturel chez les Grecs, les Romains, et même dans le droit coutumier des tribus berbères. Je me suis intéressé à ce sujet parce que Les tribus berbères, qui sont ces sociétés nord-africaines, en réalité, obéissent à des règles coutumières selon un corpus qui, d'après les spécialistes, remonte à une période pré-islamique et même à des périodes archaïques, c'est-à-dire néolithiques. Si vous désirez avoir plus d'informations sur les tribus berbères et leurs droits naturels, vous pourrez consulter, je peux vous communiquer des références. Reconnaissons que le droit naturel s'est bel et bien perdu dans les sables du positivisme juridique. Beaucoup déplorent la crise actuelle des valeurs, mais au fond, quels sont les symptômes de cette crise, sinon dans le flou qui entoure aujourd'hui la définition de l'humain? On pourrait dire que c'est la base même, le fondement de l'anthropologie qui s'évanouit. Jean-Claude Guilbeault, dans une étude récente, se risque à un diagnostic. Il voit le monde actuel comme plus ou moins suspendu entre ciel et terre. Un monde, dit-il, où l'on tirerait jour après jour le tapis sous nos pieds. Dès lors, les derniers bastions qui semblaient inattaquables, que beaucoup considèrent comme des catégories emblématiques de notre société, par exemple les droits de l'homme, ou bien les crimes contre l'humanité, eh bien ceux-là même semblent privés de leur objet, la définition de l'humain. Pour autant, la notion de droit de l'homme semble un terrain propice pour la discussion. En effet, les droits de l'homme apparaissent comme une expression heureuse de ce qu'il y a d'inaliénable, de définitif dans les acquis de l'humanité. Cela pourrait être un terrain de discussion entre croyants et incroyants, une possibilité peut-être d'accéder à l'universel. Je donne un exemple. L'histoire de la civilisation grecque. L'histoire de la civilisation grecque est marquée par des conflits et des combats avec ceux qu'ils appelaient les barbares. Et pourtant, ces barbares respectaient des coutumes et des us et coutumes qui étaient bien connus des Grecs. Et les Grecs respectaient ce qu'il y avait d'édifiant, de remarquable dans les règles éthiques des peuples barbares. C'est ainsi que dans son traité d'histoire, Hérodote fait l'éloge de la pudeur et de la piété des Lydiens, qu'il qualifie pourtant de peuple barbare. Dans une autre œuvre, Les Enquêtes, toujours de Hérodote, il fait l'éloge de l'égalité devant la loi, ce qu'il appelle isonomia, une expression qu'il met dans la bouche d'Otanès, un notable perse. Alors, donc, ma contribution se déroulera en trois parties. D'abord, dans un premier point, je vais parler des droits de l'homme, universalité et indivisibilité. Ensuite, il y aura un deuxième point qui s'intitulera « Droits de l'homme et droits naturels ». Et enfin, troisième point, le droit naturel orienté vers le bien. Premier point, les droits de l'homme, universalité et indivisibilité. La question qui se pose est celle de la consistance du droit naturel dans nos sociétés contemporaines. Qu'est-ce qui nous donne la certitude que telle règle de droit est de droit naturel? Car il semble bien qu'un certain nombre de règles aient émergé historiquement pour prendre un statut plus solide, plus particulier. Commençons par évoquer les droits de l'homme comme une expression possible de droits universels et indivisibles. Première remarque, les droits de l'homme prennent la forme d'une déclaration et non d'une loi. C'est ce qui en fait la spécificité et peut-être aussi la limite. Car comme le fait remarquer Jean-Michel Longniaux, une déclaration n'a pas de valeur juridique contraignante. Et en même temps, tout le monde pourtant considère qu'aucun État ne pourrait déroger à ses règles. Michel Henry, en prenant comme exemple l'affirmation selon laquelle les hommes naissent libres et égaux, explique que cette affirmation n'est ni une déclaration de circonstance qui pourrait être abrogée par une autre, ni une décision arbitraire basée sur la volonté de quelques hommes politiques, comme si l'on décidait désormais que les voitures rouleraient à gauche et non à droite, ce qui serait, je pense, catastrophique. Pour Michel Henry, une telle déclaration n'est pas le d'ordre de ce qu'il appelle l'imaginaire. On estime que cette liberté et cette égalité sont inaliénables car elles caractérisent bien l'homme en tant qu'homme. La déclaration vise une réalité qui la dépasse et la précède. Mais si c'est le cas, comment le savons-nous? Ne serait-ce pas là qu'une théorie parmi d'autres? Alors, si la notion de droit naturel est reconnue comme pertinente, d'où tire-t-elle son origine? Dans un ouvrage récent intitulé « Les droits tournés vers l'homme », Xavier Dijon, qui a été déjà cité tout à l'heure par Édouard R., imagine un dialogue entre deux personnes, un homme de la rue qui interroge un juriste. « Où se tiennent les droits de l'homme ?» demande le premier. Le juriste, qui connaît bien sa leçon, lui répond « Ils se tiennent partout où se trouve un être humain, car tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » On reconnaîtra sans peine l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Surgit alors une deuxième question. Comment savez-vous, alors que l'espace et le temps vous situent nécessairement dans une culture particulière, que les droits de l'homme concernent tous les êtres humains? Et l'on pourrait préciser, en paraphrasant la dite déclaration, qu'elle concerne tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Voilà la réponse. Il concerne tous les êtres humains, car il se trouve en chacun d'eux quelque chose qui les rend titulaires de ses droits. Alors arrive la troisième question, celle qui nous intéresse ici et qui va rester un instant sans réponse. Quel est ce quelque chose? Ce quelque chose qui se trouve en tout homme. Nous allons montrer que si les droits de l'homme sont aujourd'hui une pierre angulaire dont on suppose qu'ils sont reconnus universellement, ils s'appuient eux-mêmes sur des principes qu'il faut bien reconnaître comme naturels. Nous montrerons ensuite que le droit naturel, ainsi compris comme principe nécessaire pour fonder des règles élémentaires de droit positif, concourt au développement des personnes et des peuples. Alors, c'est là où se pose un problème de cohérence. Les grandes déclarations qui définissent les droits de l'homme insistent toutes sur le fait que ceux-ci ne peuvent exister que si tous les hommes sont reconnus comme ayant les mêmes droits. Autrement dit, les droits de l'homme n'existent que s'ils sont universels. S'ils ne sont pas les droits de tous les hommes, ils sont le droit d'aucun. C'est en tout cas ce qui ressort de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais voilà que la liste des droits reconnus s'allonge au point de menacer cette universalité de principe. Aux droits civils et politiques reconnus en France dans la Déclaration de 1789, se sont ajoutés dans la Déclaration de 1948 les droits économiques, sociaux et culturels, les articles 22 à 27. Les juristes sont bien conscients de l'hétérogénéité de ces deux listes, puisque la première s'inscrit dans une logique libérale qui vise à protéger les libertés individuelles, la seconde appartenant à une ligne plus sociale, visant à garantir une certaine qualité de vie et la satisfaction des besoins élémentaires. Comment faire que le libéral qui veut universaliser les droits civiques s'entende avec le socialiste qui veut universaliser les droits sociaux? La difficulté qui surgit n'est pas seulement la compatibilité de ces droits entre eux. Par exemple, le droit de propriété qui pourrait entrer en conflit avec le droit à un logement décent. c'est aussi que l'ajout de nouveaux droits rend moins évidente leur universalité. L'Organisation des Nations Unies a mis bout à bout les deux listes de droits, droits civils et politiques et droits économiques et sociaux. Plus que cela, elle pense régler le problème en proclamant dans le même élan l'indivisibilité et la conjonction des points de vue. C'est le sens d'une résolution que je cite « Tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes. » Vous comprenez l'enjeu qu'il y a là. C'est une déclaration qui insiste sur le fait qu'il est exclu que l'on puisse observer des droits, mais non pas tous ensemble. Indivisibilité. Impossibilité de dire « Oui, nous on respecte les droits de l'homme, enfin en tout cas certains des droits de l'homme. » Indivisibilité. Les choses se compliquent aujourd'hui car on en arrive à une troisième et même une quatrième génération de droits qui pose des problèmes de plus en plus insolubles. La troisième génération est celle des droits dits de la solidarité. La différence avec la génération précédente réside dans la distance qui est prise par rapport aux individus, en considérant davantage les conditions communes du développement humain. On range dans ces droits le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, suite à une revendication provenant des pays du Sud nouvellement affranchis de la colonisation. En 1966, ces pays ont fait inscrire en tête de chacun des deux pactes internationaux, l'un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'autre aux droits civils et politiques, un même article qui énonce le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Notons bien que l'on n'a pas voulu faire un troisième pacte pour cette troisième génération de droits, justement par souci d'éviter l'éclatement, par souci d'universalité. Ces droits ne prétendent pas concerner uniquement les pays qui ont accédé à la décolonisation, mais tous les pays. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette troisième génération de droits comprend aussi une série dont la liste paraît devoir s'allonger sans mesure, le droit au développement, le droit à la paix, le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, le droit de propriété sur le patrimoine commun de l'humanité et le droit à l'assistance humanitaire. Enfin, la question rebondit, sachant que l'on peut voir une quatrième génération de droits qui aurait pour but de protéger non plus seulement l'homme en société, mais l'espèce humaine comme telle, contre les menaces que font peser sur elle les innovations techniques, notamment dans le domaine de la biologie. Donc, vous percevez l'enjeu de toute cette production. L'enjeu, c'est de se dire, mais est-ce que la production de textes ne met pas en jeu la cohérence des textes ? Parce qu'il ne semble pas qu'on s'oriente vers une auto-limitation de cette production. On en assisterait plutôt, au contraire, à une augmentation législative. J'en arrive au point 2, droit de l'homme et droit naturel. Le siècle des Lumières a cru pouvoir montrer que l'on pouvait bâtir une pure théorie du droit sans référence à la transcendance. On s'aperçoit aujourd'hui d'une certaine errance de la production du droit qui se manifeste souvent par une surproduction de textes et une menace portant sur la dignité de l'homme. Alors, premier point, l'erreur positiviste et la pertinence du droit naturel. Dans les approches liées au contrat social, on part d'un étrange postulat de départ. On suppose un état de nature qui, curieusement, ni un droit naturel intrinsèque. Le bon sauvage est cruellement seul. Il est libre et heureux, selon Rousseau, mais isolé de ses semblables. On pourrait se dire, mais pourquoi donc n'a-t-il pas de relations sociales antérieures au contrat social ? Est-ce que véritablement rien ne peut se faire sans un accord formel et écrit ? Ce vide abyssal est également vide de tout caractère réflexif ou éthique. Je cite Rousseau, « L'état de réflexion est un état contre nature, dit-il, et l'homme qui médite est un animal dépravé. » C'est dans le discours sur l'origine de l'inégalité. On en arrive à ce constructivisme total dont parlait Thibaut Collin tout à l'heure. Hans Kelsen est sans doute le plus célèbre défenseur du droit positif contre toute doctrine se référant au droit naturel. Pour lui, ce qui caractérise le droit, c'est son caractère normatif. Le droit serait un ensemble de normes dont la validité dépend de la conformité avec les règles qui président à leur création. Exemple, un contrat n'est valide que s'il est conforme au droit des obligations. Le droit des obligations lui-même est valide dans la mesure où il est validement voté par le Parlement. Les lois votées par le Parlement sont valides si elles sont conformes à la Constitution. Mais on s'interdit tout jugement sur le contenu du droit ici en ne considérant que la procédure par laquelle les règles arrivent à l'existence. Kelsen affirme avec autorité « On observera que les normes qui confèrent à un acte la signification d'acte de droit ou acte contre le droit sont elles-mêmes créées au moyen d'actes de droit et qu'à leur tour, ces actes reçoivent leur signification juridique d'autres normes. » Dans cette conception, le droit n'est pas une donnée d'expérience, mais une cascade de normes qui remonte à une hypothétique norme fondamentale dont les contours sont flous puisqu'elle est censée coiffer le droit international qui se situe au-dessus du droit constitutionnel. Cette logique implacable de la légitimation du droit bute de toute façon sur la norme première de laquelle toutes les autres dépendent, ce que Kelsen appelle la Grundnorm, norme fondamentale. Petit b, le droit de l'homme, renouveau du droit naturel. Est-ce que les droits de l'homme sont une nouvelle expression du droit naturel, celui-ci ayant revêtu des habits neufs? La difficulté ici tient au parcours chaotique qu'a connu la notion de droit naturel au cours des âges. Cette histoire est admirablement racontée par un ouvrage collectif qui est consacré à cette question et qui est intitulé « Droit naturel, relancer l'histoire » avec un point d'interrogation. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, le droit naturel reposait sur la réalité objective, sur la nature interprétée par l'homme. Le droit naturel s'entendait donc au singulier, non pas en tant que liste de droits au pluriel, mais comme une référence objective fondée dans la nature. Dans la pensée d'Aristote, le droit naturel a un caractère parfaitement objectif. Il est défini comme étant extérieur à l'homme. Le droit est ce qui est juste, c'est la définition qu'il donne. Il aboutit à un ordre qui correspond à un état de justice achevé, qu'il appelle téléia, qu'Aristote appelle encore justice générale. Cicéron en fournit une définition que je vous donne. Le droit naturel est le service d'une juste proportion dans le partage des biens et les procès des citoyens. Il explique dans La République que suivant l'avis des plus sages, la loi n'est point une invention de l'esprit humain ni un règlement établi par les différents peuples, mais quelque chose d'éternel qui gouverne le monde entier. Cette loi, dit-il, n'est autre que la raison ou l'esprit du sage qui sait ce qu'il faut prescrire aux hommes ou ce qu'on doit leur interdire de faire. Avec le siècle des Lumières, la conception des droits de l'homme est tout autre. Les droits naturels s'expriment au pluriel et s'affranchissent de la théologie. On passe du droit naturel objectif au droit naturel subjectif. C'est le contrat social qui permet de protéger puis d'universaliser cette prérogative personnelle. Le droit n'est plus observé et donné par la nature, il est voté et posé. Ce courant débouche logiquement sur une déclaration conforme à la première génération des droits de l'homme, dans une perspective libérale et défensive qui reconnaît surtout les droits civils et politiques. un certain nombre de philosophes du droit, à commencer par Michel Villet, dissocient strictement les droits de l'homme du droit naturel. Pour lui et ses disciples, il n'y a pas de possibilité de voir dans les droits de l'homme un prolongement de la doctrine classique du droit naturel, en raison de la rupture du nominalisme. Il souligne le clivage entre la tradition d'Aristote, de saint Thomas, puis du nominalisme avec Duns Scot et Guillaume d'Ockham. Il sépare strictement la tradition des droits de l'homme de celle du droit naturel. Dorénavant, dit-il, la culture de l'Europe bascule. Nous voici au moment copernicien de l'histoire de la science du droit, à la frontière de deux mondes. Les droits de l'homme, pour lui, s'établissent comme un acte délibéré, issu d'une volonté politique. Le droit naturel était reconnu comme antérieur à la loi, découvert par la raison humaine. D'un droit idéal à la vérité du droit. La notion de droit naturel ne concorde pas avec une espèce d'effort de la volonté publique pour produire un droit idéal. Elle correspond plutôt à ce que Jean-Paul II appelle la vérité du droit. En effet, il ne peut exister de conception objective des droits de l'homme que s'il existe effectivement une loi naturelle comme participation au principe de l'ordre du monde. Comme le fait remarquer Jean-Baptiste Daunier, ce n'est en effet que dans la mesure où existe au cœur du réel une norme du juste qui ordonne chaque être à sa fin qu'il est possible d'abstraire le droit de la réalité. Waltraud, tout à l'heure, évoquait cette prise de position de Benoît XVI s'adressant au clergé d'Aoste et renversant la proposition de Grotius sur le droit naturel, puisque au XVIe siècle, qui était marqué par la réforme, la foi était divisée et fragilisée, et on pensait qu'il était possible de conserver les valeurs morales communes avec cette hypothèse que, comme si Dieu n'existait pas, « et si Deus non daretur ». Et Benoît XVI explique que la situation désormais s'est renversée parce que les normes morales fondamentales n'apparaissent plus du tout comme évidentes et qu'on a besoin d'une référence au transcendant. Et donc il propose l'inversion de l'hypothèse, non pas « et si Deus non daretur » mais « quasi Deus daretur » comme « et si Dieu existait hein. » dans l'hypothèse où Dieu existait. « Même si nous n'avons pas la force de croire, dit-il, nous devons vivre sur cette hypothèse, autrement le monde ne fonctionne pas. Ce serait là, il me semble, un premier pas pour s'approcher de la foi. » Un sujet de dialogue, en tout cas, une plateforme de discussion possible. C'est une hypothèse qui permet de lever l'indétermination du droit tel qu'on l'observe aujourd'hui. On trouve aussi chez Paul VI le même souci dans son encyclique Populorum Progressio, lorsqu'il déclarait « Certes, l'homme peut organiser la terre sans Dieu, mais sans Dieu, il ne peut en fin de compte que l'organiser contre l'homme. L'humanisme excessif est un humanisme inhumain, dit-il. » Il n'y aurait donc d'humanisme vrai couvert à l'absolu, dans la reconnaissance d'une vocation qui donne l'idée vraie de la vie humaine. Loin d'être la norme dernière des valeurs, l'homme ne se réalise lui-même qu'en se dépassant. Selon le mot de Pascal qui a été évoqué en début d'après-midi, l'homme passe infiniment l'homme, dans la conférence de Thibaut Collin. Mais on pourrait se demander si une telle hypothèse maintient la possibilité de dialogue avec le monde, puisqu'il faut laisser ouverte la possibilité d'existence de Dieu. Je voudrais maintenant, dans un troisième point, évoquer cette perspective du droit naturel comme orientation vers le bien. Droit naturel et bien des personnes. La doctrine sociale de l'Église a toujours tenu pour vrai que le développement humain intégral était rendu plus facile dans un contexte où les règles juridiques étaient conformes à la notion classique de droit naturel. Par exemple, dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, plusieurs paragraphes sont consacrés à cette question en établissant un lien explicitement entre le droit naturel, le bien commun et le développement intégral de la personne. C'est au numéro 93. C'est sans doute le pape Pie XII qui a le plus insisté sur l'importance du droit naturel. Pour le souverain pontife, le droit est étroitement lié à la morale et le droit naturel est la traduction concrète de ce rapport dans les textes normatifs. Mais cette morale est justement chemin de croissance et de paix qui permet aux hommes d'exercer leur talent pour leurs frères. Rien ne se construit durablement sur la violence ou le mensonge ou la guerre. Au contraire, la droiture des comportements, le respect des contrats et des personnes permettent que s'établissent des relations de confiance et de coopération. Les économistes aiment insister sur la nécessité de la confiance dans les relations d'affaires, une confiance qui n'existe que si des règles générales sont appliquées et observées. Le philosophe et économiste Hayek a largement insisté sur le rôle de règles qu'il appelle de juste conduite dans l'édification d'une économie libre. Il pense à un certain bien commun qui finit par s'établir spontanément, même s'il critique la notion de bien commun comprise comme une sorte d'idéal fixé par une autorité politique. Il n'adhère pas non plus à l'idée d'un droit naturel parce qu'il la comprend comme une sorte de droit immuable et gravé dans le marbre. Pourtant, sa conception des règles de juste conduite n'est pas éloignée de l'idée d'un droit conforme à un certain nombre d'aspirations essentielles de l'homme. Et récemment, dans un document de la Congrégation pour l'éducation catholique, les thèmes tournant autour du droit naturel sont réapparus à propos notamment de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église dans les séminaires. Et d'autre part, le compendium de doctrine sociale de l'Église évoque le principe de la destination universelle des biens comme un principe de droit naturel, parce que la terre est donnée pour que les hommes puissent vivre et en faire usage selon le plan divin établi et annoncé dans le livre de la Genèse. L'homme ne pourrait atteindre son plein développement s'il n'avait pas accès aux biens de la nature. Mais il est conforme à la nature que l'homme puisse exercer ses dispositions pour transformer et faire produire à la terre ce qui lui est nécessaire. Droit naturel et bien commun. Pour les anciens, le droit naturel est tout logiquement orienté vers le bien commun. Dans la synthèse que fait saint Thomas d'Aquin à propos des lois, il considère que la loi est toujours orientée vers le bien commun. La loi, dit-il, est une ordonnance, ordinatio, de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Et on a l'expression dans le latin ordinatio ad, une expression qui est très évocatrice d'un mouvement dont nous voudrions parler à propos du droit naturel. Car la loi naturelle qui s'exprime dans le droit n'établit pas un état définitif dont on pourrait se contenter, mais plutôt un mouvement perpétuel de création qui ne peut jamais se satisfaire d'une situation donnée. Il y a une dynamique du droit. L'homme, en tant que créature raisonnable, est ordonné au bien et au service de ses semblables. Tel est le sens de son effort et de son labeur, mettre à disposition d'autrui les talents qu'il a reçus par une forme de communicatio, dit saint Thomas. Une communicatio, on pourrait traduire communication, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je cite la question 96 de la Somme théologique, la Prima Secundae, où saint Thomas évoque ce bon état général des relations multiples qui tissent la vie sociale. Il évoque les formes particulières de communication qui prennent place dans une société bien ordonnée. Communication sociale, économique, familiale. Ces communications, pour saint Thomas d'Aquin, prennent toujours le sens d'un partage ou de rendre commun quelque chose qui était détenu en privé. L'échange économique n'est donc qu'un aspect, mais un aspect important de la communication. Je suis marchand de pommes. Ces pommes sont destinées non pas à entrer dans mon estomac, mais à être vendues à autrui pour que autrui puisse en disposer. C'est une communication. Une communauté d'échange fonctionne correctement lorsque les prestations peuvent circuler et s'échanger en vue de l'utilité commune. La communauté est parfaite lorsque les communications au sein d'un groupe permettent de satisfaire tous les besoins. Il est important de noter, comme le fait Vincent Aubin, que pour saint Thomas d'Aquin, ni le bien commun, ni même la loi ne visent une fin particulière concrète. La loi est essentiellement finalisante. Elle dispose certaines choses en vue de la fin, sans être nécessairement, elle aussi, orientée vers la fin. Le droit établit seulement ce qui est juste et, ce faisant, contribue au bien commun, dont les détails concrets lui échappent en grande partie. Le droit joue donc un rôle important que saint Thomas explicite selon deux modalités. D'abord, la loi oriente l'homme vers sa fin, qui est la béatitude, selon le message de l'Évangile. Dans la question 90, il ajoute une deuxième explication qui est juxtaposée et qui est celle qu'il retiendra ensuite dans son traité des lois. La loi est orientée vers le bien commun, une orientation de type téléologique, c'est-à-dire que l'on considère ici la fin ultime de la loi. Il ne s'agit pas pour la loi de fixer des objectifs concrets à réaliser, mais d'établir une juste proportion dans les relations. Mais je trouve qu'il est important de noter cette idée d'orientation. Si la notion de droit naturel a été tellement rejetée, c'est peut-être qu'elle a été comprise de façon trop statique, comme une sorte d'idéal figé, comme si l'homme était enserré dans des habits trop étroits. En réalité, c'est tout le contraire, comme se propose de le montrer d'ailleurs l'encyclique Veritatis Splendor, comme le soulignait aussi Waltraud tout à l'heure. Le droit naturel n'a rien d'une évidence, mais demande à ce que l'homme y investisse son intelligence. La recherche de la paix, de la justice, aide l'homme à grandir dans des dispositions qui sont marquées dans le droit, non pas la loi, mais dans le droit, ce qui donne toute sa place à la coutume, à la jurisprudence, qui évolue progressivement en même temps que la loi. Le droit naturel peut être compris, comme le dit Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, en termes de convivialité, une expression qui revient souvent sous sa plume. Une convivialité qui n'est pas une sorte de bien-être béat obtenu au moyen d'un ordre réglé par un métronome. La vie morale, explique-t-il, suppose de la part de la personne créativité et ingéniosité, car elle est source et cause de ses actes délibérés. On peut penser aussi à ce discours que Benoît XVI a prononcé au Bundestag lors d'un voyage apostolique en Allemagne en 2011. Il rappelait aux parlementaires l'importance de leur mission en soulignant la nécessité de rechercher non le succès, mais la justice. Non pas un objectif particulier, mais un objectif général, la justice. Pour cela, il rappelle que jadis, Salomon avait estimé que le don le plus précieux était celui du discernement entre le bien et le mal. Vous savez, lorsque Dieu demande à Salomon qu'est-ce qu'il désirait obtenir, il demande la sagesse. J'en arrive maintenant à la conclusion. Au fond, le discours sur le droit naturel permet de sortir de l'illusion d'une humanité anomique, d'une humanité sans loi ou sans droit. Il y a une dynamique du bien lorsque les hommes fixent dans le droit ce qu'ils perçoivent, et au fur et à mesure qu'ils le perçoivent d'ailleurs, ce qu'ils perçoivent de la dignité de l'homme, ce qui demande à être écrit et protégé. Si l'Église, après avoir pris ses distances par rapport aux droits de l'homme, reprend maintenant à son compte de façon explicite ce grand courant, c'est qu'elle estime que celui-ci est conforme à la raison humaine et concourt au bien des hommes. Sans renier pour autant la notion de droit naturel, elle reconnaît en eux, les droits de l'homme, un effort légitime pour exprimer ce que l'homme découvre des dispositions favorables pour la vie en commun. Mais la question est de savoir si le droit peut se fonder sur lui-même, s'il peut être en quelque sorte autonome, s'autoproduire, ou si sa cohérence ne provient pas d'un principe fondé sur l'ordre créé. Le risque actuel est que les droits de l'homme, par une inflation mal maîtrisée, finissent par se retourner contre celui qui l'entend défendre, faute d'une réflexion suffisante sur ce qu'est l'homme lui-même. Dès lors, le droit naturel devient la seule argumentation praticable pour critiquer et réformer les droits de l'homme. Au fond, le droit naturel, comme un principe qui nous permet effectivement de principe supérieur qui permet effectivement d'exercer un regard critique et un discours critique. Il me semble que ces réflexions sont au cœur évidemment de l'actualité et nous permettent de mesurer l'importance de l'investissement nécessaire par rapport aux juristes catholiques et à cette réflexion qui me paraît indispensable dans la sphère politique. L'importance de l'engagement en politique, non seulement de la part d'universitaires, mais de la part des élus. Et donc, le travail du théologien me paraît être justement de devoir souligner ce rôle qui appartient à ceux qui ont reçu mandat ou bien qui exercent la profession de juriste. Je vous remercie.